Arrive maintenant le moment de la clôture de cette matinée de congrès. Madame la préfète, nous vous accueillons. Claire Rollin, c'est à vous pour conclure cette matinée qui a été très, très dense. Très dense, puisque on a pu, dans les échanges, dans cette actualité politique troublée, actualité dense aussi, prendre la mesure des enjeux, des contraintes aussi, qui sont celles des décideurs publics, des contraintes, mais aussi, vous l'avez entendu, des demandes et aussi des espoirs.
Messieurs les députés, messieurs les sénateurs, monsieur le président de l'AMF 46, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil régional, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs agents publics de la fonction publique territoriale et de l'État, et en particulier les secrétaires de mairie. Il me revient l'honneur de conclure. Et je voudrais d'abord saluer votre action en tant qu'élu, car vous êtes à l'avant-garde de la République. Et votre mission, elle est encore plus difficile dans cette crise de confiance envers l'action publique qui traverse notre pays, comme vient de le démontrer encore Pascal Perrineau. Je voudrais redire l'attachement de l'État à un dialogue et à un partenariat étroit avec les collectivités locales et avec les élus, qui sont encore plus essentiels en ces temps percutés et de profondes mutations. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas besoin d'opposer les uns et les autres. Le pays a besoin de tout le monde, et souvent, très souvent, dans les difficultés, comme vous l'avez dit, on vient trouver le maire, on vient trouver les élus, mais on vient aussi chercher l'État, qui intervient aussi en dernier ressort. Et ceci peut parfois expliquer cela. Pour avancer ensemble, je voudrais placer cet automne sous un triptyque et me positionner sur le fond. Première priorité, c'est garantir notre sécurité. La deuxième priorité, c'est faire vivre notre ruralité. Et la troisième, c'est amplifier cette vitalité. Garantir la sécurité d'abord. Depuis le début de l'année, la délinquance dans le Lot est stable. Et je voudrais saluer l'action des forces de sécurité intérieure et la mobilisation exceptionnelle dont elles font preuve en tout point du département, cet été et durant toute l'année. Ces résultats, ils n'effacent pas des cas de violence de plus en plus durs et qui sont inacceptables. Ils n'effacent pas la hausse des incivilités ni un sentiment croissant d'insécurité, y compris parmi vous-même les élus. Je voudrais réaffirmer l'engagement de l'État pour continuer à accroître les efforts. D'abord, grâce à la remontée d'effectifs que nous effectuons dans la gendarmerie comme dans la police nationale en cette rentrée. Au commissariat de Cahors, par exemple, c'est pas moins de 9 nouveaux policiers qui sont arrivés. Et nous faisons, au niveau des forces de sécurité intérieure, bien souvent au-delà des missions qui sont les nôtres. Je tiens aussi à le préciser, vous le savez. Ensuite, cet effort accru, il se fait via une présence renforcée sur la voie publique et dans les contacts avec vous. Je crois là aussi dans les échanges que nous avons eus, notamment au niveau des communautés de communes et à travers le dialogue que nous avons eu avec les élus, que ce contact de tous les jours est apprécié et que les progrès accomplis ces derniers mois ont été importants. Enfin, nous continuerons côté État à accroître nos efforts grâce à des actions ciblées et amplifiées pour lutter contre certains fléaux précis. Je les citerai, les violences aux personnes, plus particulièrement parce que c'est là que la hausse est la plus importante, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles. Et enfin, la lutte contre la consommation et le trafic de drogue, qui doit rester la priorité. Sur ce dernier point, beaucoup de progrès ont été faits pour démanteler les trafics. Mais il nous faut continuer à avoir une approche plus systématique encore et nous augmenterons notamment nos actions de prévention et de contrôle. Sur l'ensemble de ces sujets cruciaux pour notre sécurité, celle des citoyens, nous avons besoin de vous. Nous avons aussi besoin de vous pour nous prémunir contre les risques naturels. Je citerai le risque principal dans ce département, vous le connaissez tous puisque nous sortons d'un épisode compliqué, c'est les inondations. Et il faut continuer, en ces temps de changement climatique, à informer nos citoyens, à les sensibiliser, à mettre sans cesse à niveau nos infrastructures et à mieux nous préparer. Nous devrons aussi continuer à nous mobiliser sur un second risque qui est très important dans le département et qui se développe. C'est celui du risque incendie. Les obligations légales de débroussaillement seront renforcées début 2025. Vous en serez informés et également formés. Et je voudrais dans ce cadre-là saluer plus particulièrement l'action des sapeurs-pompiers du SDIS 46 qui continue à renforcer ses capacités pour mieux détecter, pour mieux surveiller et pour mieux lutter contre les incendies. Ce partenariat entre l'État et les élus, il est aussi crucial pour garantir la sécurité de l'accès aux droits, en lien avec la justice et avec les autres acteurs. Nous aurons dans les prochains mois une attention particulière sur le renforcement de l'accueil et de la prise en charge des victimes. Et je voudrais aussi, parce que cela a été évoqué avant moi, vous remercier pour le très bon travail d'équipe qui est réalisé à travers les 23 espaces France Service et les 20 dispositifs de recueil pour titres sécurisés du Lot. Grâce à vos agents, en particulier à vos conseillers France Service, en lien avec les services de l'État et les opérateurs, nous assurons un service public qui est humain, qui est efficace, qui est respecté et qui est apprécié. Le deuxième enjeu, c'est faire vivre notre ruralité. Notre ruralité, elle est à un tournant, en particulier face à l'amplification du changement climatique. Et notre agriculture en paie un très lourd tribut, en cette année encore. Nous enregistrons des pertes de récolte. Dans certaines filières, c'est jusqu'à 80%, voire au-delà. Nous voyons aussi dans les campagnes des dépérissements d'arbres et dans les cheptels des réductions, des mortalités, des pertes indirectes à cause des épisodies qui se multiplient. Et petit à petit, nous assistons à une perte progressive du potentiel de production de l'agriculture lotoise. Beaucoup a été fait au plan national et local pour répondre à cette crise qui traverse l'agriculture. Et beaucoup continuera à être fait pour apporter les solutions à l'urgence comme pour répondre à des enjeux plus structurants. Mais sur ces sujets-là aussi, nous aurons besoin de vous, collectivités, élus, pour avec la profession agricole, trouver les voies, celles de la transition agroécologique, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique de nos activités agricoles, celle du renforcement de l'accès à l'eau, celle de la transmission et celle de l'accompagnement aussi des évolutions parcellaires auxquelles le changement climatique pourrait nous obliger. Dans ce contexte d'urgence agricole, nous aurons aussi besoin de votre vigilance pour nous aider à identifier les situations de mal-être et à éviter les drames qui pourraient survenir. Et je voudrais dans ce cadre saluer l'action particulière de la MSA. Faire vivre notre ruralité, c'est aussi continuer à anticiper l'amplification du vieillissement que nous connaissons et de notre baisse démographique. Comme vous l'avez vu, l'État, là aussi, y apporte sa part. Notre offre hospitalière ne cesse de s'enrichir dans le département. Encore dernièrement, avec l'arrivée d'un IRM à Gourdon. Et c'est à peu près 60 millions d'euros qui sont consacrés à nos 4 centres hospitaliers dans le département. Chaque année. Avec l'ARS, nous restons à vos côtés pour développer l'offre de soins et de santé pour ce qui concerne la médecine libérale et la médecine salariée. Nous connaissons tous la situation et le cadre qui prévaut en la matière. Sachez que nous sommes là pour continuer à accompagner les projets à l'image de ce que nous avons fait encore cette année puisque nous avons accompagné 6 maisons et centres de santé. Nous restons également vigilants et mobilisés sur les questions de la dépendance, à commencer par le fort soutien que nous apportons aux nombreux EHPAD qui sont en difficulté. Nous sommes également mobilisés sur les enjeux de l'école. Cette année, dans le premier degré, le nombre de professeurs des écoles est resté globalement stable, malgré la perte d'un peu plus d'une centaine d'élèves. Cette baisse démographique, elle va s'amplifier, avec la perte d'environ 1000 élèves dans le premier degré sur les 5 prochaines années, soit moins 200 élèves par an. Il faut nous y préparer. Et avec la directrice académique des services de l'éducation nationale, nous travaillerons avec vous à la façon dont nous pouvons répondre à ce défi pour assurer la meilleure offre scolaire à nos enfants, à leurs familles, mais aussi à nos professeurs. Cet engagement de l'État, il vaut aussi pour la petite enfance et sa prise en charge, cruciaux pour notre avenir, bien sûr avec votre concours. Là aussi, ce soutien, cet effort, il se traduit par des gestes concrets, y compris en termes financiers. Cette année, nous avons consacré un quart des subventions d'investissement de l'État à l'école et aux services à la petite enfance, en soutenant à peu près une dizaine de projets. Et nous continuerons sur cette priorité comme sur celle de la santé. Cet engagement pour faire vivre la ruralité, il est aussi plus général. J'entends ce qui a été dit ce matin. Cette année, nous avons, notamment sur l'investissement des collectivités, qui est majeur, qui est reconnu, qui est apprécié, accompagné plus de 160 projets dans le département. Nous y avons consacré 20 millions d'euros, et la part de subvention de l'État, elle est souvent de 30-40%. Donc elle est une part importante, et nous savons le soin que vous apportez à notre participation. Cet effort-là, il a vocation à se poursuivre. Comme vous le savez, le gouvernement a fait le choix de proposer dans le projet de loi de finances pour 2025 de la stabilité de la dotation globale de fonctionnement, qui avait augmenté cette année, et la stabilité également des dotations d'investissement, modulo le fonds vert. Dans ces temps qui sont contraints pour tous, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la conception de votre projet et dans sa mise en œuvre. Et chaque sous-préfet d'arrondissement est à votre disposition. N'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à prendre la tâche de nos services. Nous sommes là pour vous accompagner. Et puis, de manière plus générale, en réponse aux remarques qui ont été faites ici et là dans la salle, je voudrais redire combien l'État est attaché à un partenariat étroit avec les collectivités locales, y compris dans les efforts qui doivent être faits pour réduire notre dette financière. Chacun doit y contribuer pour l'avenir de notre pays. Je pense qu'il n'a pas lieu d'opposer les uns et les autres. Le budget de notre nation, le budget de notre pays, c'est l'État, les collectivités et la sécurité sociale. Mais il nous faut effectivement continuer d'avancer ensemble, dans la même direction, pour arriver à maîtriser nos dépenses publiques et pour pouvoir soutenir en même temps la croissance, chacun à sa part. Là aussi, je le redis, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner cette bataille de la dette, soutenir notre pays, soutenir notre ruralité. Troisième enjeu, enfin, pour cet automne, c'est le besoin, pour faire vivre cette ruralité, d'amplifier encore cette vitalité et de l'aider. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je voudrais vous remercier pour la qualité des échanges réguliers que nous avons. Encore dernièrement, dans le cadre de la tournée que les services de l'État ont effectué auprès de chaque communauté de communes et d'agglomération en allant rencontrer les élus qui la composent. Et pour nous, cela a été un dialogue franc, un dialogue riche, un dialogue qui nous permet de continuer à améliorer notre action et à l'adapter à vos besoins et à vos attentes. C'est un dialogue aussi au quotidien que nous avons avec vos personnels et en particulier les secrétaires de mairie que je voudrais de nouveau saluer. Je distinguerai trois enjeux de long terme pour continuer à amplifier la vitalité et la ruralité de ce département et son développement. Mais ces enjeux de long terme sont aussi des urgences de court terme. Et elles sont essentielles pour notre avenir. Je voudrais d'abord insister sur la dimension du logement, dont on ne parle pas assez dans ce département. Alors que la production de logements continue à s'effondrer et que beaucoup d'entre vous et beaucoup de nos citoyens sont confrontés à des difficultés pour en trouver, pour en créer et pour en rénover. Là-dessus, nous apportons un soutien très concret. Je le dis parce que ce n'est pas assez connu, mais cette année, l'État a à peu près soutenu la création ou la rénovation d'une soixantaine de logements communaux pour 1,7 million d'euros. Donc, très concrètement, on a aidé à la création, à la rénovation de 60 logements. Mais il nous faut aller plus loin, au-delà de ce qui existe au plan national. Et avec le Conseil départemental délégataire à l'aide à la pierre et vous, nous devons continuer à travailler à des projets pour créer des logements pour nos actifs, pour les jeunes, pour les personnes âgées, ceux qui veulent s'installer dans le département. Moi, j'ai la conviction que nous devons accélérer nos travaux collectifs en la matière en nous rassemblant autour d'une table parce que c'est une problématique majeure pour l'avenir du département. La deuxième urgence, c'est celle de l'emploi et de la formation. Alors vous me direz, d'un certain côté, tout va bien dans le Lot puisque le chômage continue à baisser. Nous sommes à 7,2% de la population active au chômage au deuxième trimestre 2024. En réalité, outre que le taux reste élevé, les tensions de recrutement demeurent et elles sont un frein à l'activité et au développement pour l'industrie, pour l'artisanat, pour les bâtiments et les travaux publics, pour les services à la personne ou encore les agriculteurs. Beaucoup d'actions sont menées par les différents acteurs et je voudrais les remercier pour adapter notre formation professionnelle, y compris scolaire, et développer des méthodes innovantes de formation et de recrutement. Très clairement là, avec les partenaires du réseau de l'emploi et en particulier France Travail, nous avons besoin d'aller plus loin avec vous pour coller au plus près des aspirations, coller aussi au plus près des besoins et faire en sorte de rehausser notre taux d'activité et notre productivité qui joue un grand rôle dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Le troisième enjeu, enfin, c'est celui de l'adaptation au changement climatique et de notre capacité renouvelée à toujours l'anticiper et avoir accès aux ressources dont nous avons besoin. Je me limiterai à deux points. Le premier, c'est l'effort collectif que nous devons continuer de poursuivre sur le sujet des énergies renouvelables. Actuellement, si nous voulons répondre aux objectifs qui nous sont fixés pour 2030 et qui sont des objectifs, pas pour le plaisir des objectifs, mais parce que ce sont des éléments essentiels pour notre transition écologique, il faudrait que nous augmentions notre capacité de production des énergies renouvelables en un an d'un effort que nous faisons actuellement en 3 ans. Je vous donne donc l'idée de l'ampleur de l'accélération que nous devons continuer à faire. Et dans ce cadre-là, quelle que soit la source d'énergie renouvelable, j'encourage l'ensemble des communes qui ne l'ont pas encore fait, et elles sont nombreuses, à délibérer d'ici la fin de l'année pour procéder à l'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables demandées par la loi, car c'est un élément essentiel pour organiser l'effort et l'accélération des efforts. Je voudrais aussi redire les attentes de l'État sur la question de l'eau potable, qui est un sujet dont on s'est parlé tout au long de l'année et qui est un sujet majeur là aussi pour la vie dans notre département. Il y a beaucoup d'eau qui est tombée ces derniers jours, ça fait partie du changement climatique, mais globalement, d'ici 2100, c'est moins 40% de ressources en eau dans le département. Et c'est un sujet dans un département où 70% de l'eau potable vient de la rivière Dordogne et est pompée dedans. Donc, quel que soit le cadre sur la répartition des compétences, quel que soit le débat sur la question d'un transfert et d'un calendrier, il nous faut continuer à renforcer notre solidarité et notre résilience en matière d'eau potable, en nous dotant des interconnexions qui sont nécessaires au niveau des réseaux, en sécurisant les ressources actuelles et en travaillant collectivement à identifier et sécuriser les ressources supplémentaires d'eau potable dont nous avons besoin. Dans ce cadre-là, nous continuons à vous encourager, à vous organiser, à vous structurer, à vous consolider à la bonne maille pour faire face au mur d'investissement auquel vous allez être confrontés et pour permettre à l'État et à l'Agence de l'eau de pouvoir vous accompagner de manière adéquate. Face à tous ces enjeux, mesdames et messieurs les élus, je voudrais encore vous remercier pour la qualité des échanges et du partenariat que nous avons. Vous trouverez l'État à vos côtés. Et vous trouverez l'État à vos côtés pour continuer à avancer et pour continuer à trouver des solutions face aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Et je voudrais conclure sur un mot d'optimisme et aussi de mobilisation, parce que cette matinée a peut-être été trop placée sous le signe du pessimisme et de la défiance. Je renouerai avec un mot d'un Lotois célèbre qui parlait d'expérience, parce que c'est un enfant de la République qui est monté grâce à la République, Léon Gambetta. On ne fait pas plus français. Gambetta disait « L'avenir n'est interdit à personne ». Mais il le montre et il le dit par son expérience personnelle. Cet avenir, pour se réaliser, doit se construire. Et il doit se construire collectivement pour nos citoyens, nos territoires, notre République et notre pays. Dans les temps faciles, comme dans les temps difficiles que nous traversons actuellement. Vous y jouez, en tant qu'élu de la République, un rôle essentiel et vous faites beaucoup. L'État fait beaucoup aussi, et parfois et souvent en dernier ressort. Je suis convaincue que c'est dans le partenariat étroit et le travail d'équipe que nous pourrons continuer à avancer, car nous avons encore beaucoup à faire et nous devons le faire vite. Vive la République, vive la France.
Merci Claire Rollin, merci Madame la Préfète. Alors maintenant, ça va être le temps de l'inauguration du salon. Et puis, pendant cette inauguration et la visite du salon que pouvait faire Pascal Perrineau, dédicace son dernier livre, Le goût de la politique, sur le stand de l'AMF 46. Il y aura le temps du déjeuner. Cet après-midi, on parlera donc protocole. Raphaël Daubé a insisté sur l'importance de la forme. On dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est Victor Hugo qui avait dit ça. Donc là encore, hein, des sujets très importants qui tiennent à la République, à son fonctionnement, et on a vu aussi la gravité de tous ces sujets. Bonne visite du salon et puis bonne continuation pour ce congrès 2024.